Sauf que les enfants, trois en tout, poussent sous un regard maternel à géométrie variable. Tendre pour le petit, moqueur pour la sœur cadette et jaloux pour la grande. Cette dernière sert de boniche à l'héritier et accessoirement au reste de la famille. Je ne vois jamais Gertrude travailler avec un tant soit peu d'assiduité, d'intérêt, à défaut de passion ou d'amour. J'ai souvent l'impression de suivre des yeux une vieille pantoufle qui glisse mollement d'une pièce à l'autre, traînant son poids comme la misère des 20 derniers siècles rédempteurs. Et pourtant, à l'entendre, que d'occupation, monsieur le curé. Avec un tout petit turbulent, une autre qui ne suit pas à l'école et la grande qui n'obéit pas. L'Auguste, lui, aime s'enfermer avec ses rêves dans son atelier crasseux. Tard le soir pour peu de travail. Quelques à-coups de temps en temps. Garder l'image affairée, et une tâche bâclée, au mieux acceptable. À l'abri du matriarcal regard, son cerveau désordonné trouve au moins un refuge quiète dans cette sorte de cocon de Capharnaüm. Il doit réfléchir à sa destinée. De ce lieu naissent ses préjugés, ses pensées insanes. Parfois il se couche à l'aube, épuisé par la veille qu'il s'est imposée. Le lendemain, ni frais, ni propre, ni rasé, au radar, il attend que le jour l'accapare un peu. Avec lui tout baigne, le personnel vaque comme il l'entend, sans l'aviser le moins du monde. Il préfère trouver seul les solutions, lassé des augustes propos d'Auguste. Lassé de le voir intervenir de façon négative, dénié, condamné, sans pour autant apporter de solution. De la répression sans explication donne l'omerta, comme dans pas mal d'endroits. La poussière sous le tapis et le chef reste chef avec son ego. Seul maître à bord, la sensation du pouvoir et ses pauvres connaissances qu'il tient hors de portée dans la mesure du possible. L'entreprise est son jouet. Elle lui donne le sens, la reconnaissance qu'il n'a pas à la maison. D'ailleurs, quand il franchit la porte de son carcéral domicile, ses forces l'abandonnent. Il abdique, laisse le règne à Gertrude. Elle l'exerce sans partage et écrase le peu d'hommes restés en lui en prétendant faciliter son quotidien. Spectacle permanent que j'observe vicieux et qui compense mon travail sans grande valeur. Les deux clowns et leurs apologistes, tant de bonté méritent une contrepartie bienveillante, produisent un amusant show. Peu rémunérateur, mais permanent et assez évocateur pour en tirer des leçons. Auguste immature, Gertrude en mari virginal qui berce son homme sous le joug, le petit maire de Gradingue, la petite débile et Cosette. Un monde à pleurer les jours de gentillesse. Un monde mécanique, sans vraie surprise. Quoique, nous allons le voir, soyons patients, bien huilés. Tout peut continuer ainsi, les habitudes deviennent des règles indiscutables. Sauf que... Un soir d'hiver, retour d'un repas d'affaires trop arrosé, Gertrude, Auguste et moi. La nuit noire. Elle masque au conducteur éméché, Auguste, une mobilette mal éclairée. Le freinage et le coup de volant trop tardif ne suffisent pas à éviter l'homme sur son destrier d'acier. De l'arrière du véhicule, je me retourne brusquement. Il vole comme un fétu avec cette curieuse impression du temps suspendu qui permet à la rétine de mémoriser un ralenti. Puis il retombe lourdement, sèchement, au beau milieu de la départementale bitumée et disparaît dans l'obscurité. Auguste ne stoppe pas immédiatement. Je pense d'abord qu'il va chercher des secours. Mais non, il continue son petit bonhomme de chemin, tout juste s'il ne sifflote pas. Arrête-toi, bordel, on ne peut pas le laisser au beau milieu de la route. Un seul de nous suffit pour prévenir. Devenu sourd, Auguste trace en accélérant légèrement. Gertrude prend alors la parole. Sa voix tremble. Elle m'explique qu'Auguste a perdu des points sur son permis et qu'avec l'alcool dans le sang, ce n'est pas très raisonnable de s'arrêter. Sans compter la notoriété de l'entreprise, la mauvaise presse, les candidats ratons, le risque financier. Elle attend beaucoup de ces derniers arguments. Après tout, je suis le conseil qui ne cesse de répéter de la rigueur et pas de dépenses irréfléchies. Je dois hurler, injurier, menacer, lever haut le doigt de l'inquisiteur pour qu'il fasse demi-tour. Le blessé est un jeune homme. Il respire faiblement. Son crâne ouvert saigne abondamment. Une vilaine blessure au bras laisse apparaître un os. La vie garde l'enveloppe. Je crois pas que cela soit trop grave. Pour l'instant, il est sonné. « Auguste, tu restes avec moi pendant que Gertrude va prévenir les secours. » Pas de réponse. Je fais volte-face. Auguste est évanoui sur la berme. Sa dulcinée le ventile. Il ne supporte pas la vue du sang. Je reste quoi quelques secondes, puis elle ajoute. J'ai peur qu'il prenne froid avec ses bronches fragiles. Je dois hurler, injurier, menacer, lever haut le doigt de l'inquisiteur pour qu'elle active sa couenne et oublie pour un temps son pauvre biquet dans l'herbe fraîche. Auguste trouve la fin de la nuit épuisante. Il ne se préoccupe pas une seule fois du blessé qui se vidait de son sang. Vraiment, avec tout ce boulot qui m'attend, ça tombe vraiment mal. Gertrude console les parents. Il s'en tirera, ayez confiance. Nous avons fait tout notre possible. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Sauf que... Un matin de printemps, je surprends le regard d'Auguste sur les jambes nues de sa fille aînée. Un regard insistant, comme une traînée gluante de gastéropode qui semble ne jamais finir sa course lente. Et le désir qui ronge ses sens se lit dans ses pupilles brûlantes. Gertrude aussi l'a remarqué. Longuement, j'observe la bonne mère de famille, jusqu'à comprendre enfin que jamais elle ne lèvera le petit doigt pour stopper ce bon père de famille si d'aventure il osait. Tout au plus, rirait-elle davantage. L'exécution de la famille s'impose. La possibilité de devoir intervenir avant qu'il ne soit trop tard me survolte. L'état second des grandes occasions. Je vole. Je suis l'ange exterminateur. Le sort de ces braves gens coule de source. Limpide et heureuse alternative. Je suis le bras du sens commun. Je peux le faire. Je me dévoue. Je cherche une hache alentour, mais je dois me contenter d'une cognée, engin redoutablement efficace légué par le grand-père de Gertrude. Je dois alors patienter, attendre le moment propice. Pour calmer mes ardeurs et éviter l'empressement, je sifflote toute la journée des airs de Monsieur Verdi Giuseppe, 1813-1901, le célèbre homme de Parme, cité du jambon. Auguste bidouille du matériel dans son atelier. J'entre dans la pièce. Sans un mot, tout en le fixant, je fais tournoyer la justice dans les airs plusieurs fois et la scène sur le sommet de son crâne. Sous cette terrible violence, il se fend, craque bruyamment. Un œil jaillit de son orbite. Le mou du cerveau macule le poste de travail. C'est plutôt dégueulasse. Gertrude apparaît juste à la fin de l'exécution, sans doute, comme elle en a l'habitude, pour sommer son époux de réintégrer le foyer. Son effroyable cri me glace le sang. On ne se refait pas. Je le stoppe net d'un petit mouvement sec de mon arme. Un autre plus énergique achève, si je puis dire, le boulot et met fin aux souffrances existentielles de la dame. Et les deux grandes regardent la télévision. Le petit héritier dort innocemment dans sa chambre. Je l'étouffe promptement, prestement et en silence. Pour les prudes jeunes filles, je n'ai plus assez d'influx meurtrier. Le petit grain pour franchir la barrière m'a lâché. J'attends la marée chaussée en regardant un feuilleton à rallonge sur le petit écran avec les deux orphelines.